Au bout de la plume, l'émission littéraire de Radio Alpes-Mancelles. Au bout de la plume, pour partager ensemble le plaisir d'écrire, la passion pour la lecture et faire partager vos talents d'écriture. Au bout de la plume, un rendez-vous hebdomadaire sur votre radio, à Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Au bout de la plume sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM. Pour ce magazine aujourd'hui, nous allons parler du livre Poupée de maïs de Huguette Hérin Travers. Pour cela, nous la recevons.
Ma mère est là, quelque chose dangereuse, quelque chose d'une allumeuse, et quelque chose d'une emmerdeuse. Elle a des yeux qui tuent, mais j'aime ses mains sur mon corps. J'aime l'odeur au-dessous de ses bras. Oui, je suis comme ça. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours dans les yeux de ma mère. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Je suis con et faible, et quand je suis bourré comme une baleine, c'est elle qui sait que mes pieds puent, c'est elle qui sait comment je suis nu. Mais quand je suis malade, elle est la reine du suppositoire. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours dans les yeux de ma mère. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière.
Alors, Madame Hérin Travers, bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Pour commencer, présentez-vous, quel est déjà votre parcours professionnel?
Alors d'abord dire que je suis née en 1939 et que évidemment c'est pas innocent dans mes choix. Et mon parcours professionnel, ça a été grâce à la République déjà, enfant, d'avoir droit aux bourses pour mon enseignement secondaire au Collège moderne de jeunes filles de Château-du-Loir. Donc j'ai eu cette chance, oui, cette possibilité de faire des études. Alors, mon parcours professionnel, c'est d'avoir choisi l'enseignement. D'abord, institutrice, j'ai été remplaçante longtemps. En 1959, par exemple, on manquait déjà d'institutrices et d'instituteurs. Et j'ai souhaité poursuivre mes études plus avant parce que je souhaitais enseigner à des ados, enfin des jeunes plus en difficulté, des jeunes, par exemple, de lycée professionnel. Donc, j'ai choisi d'enseigner les lettres en lycée professionnel. Ce qui m'a amené au bout d'un long chemin au Mans, au lycée Sud.
Alors oui, hein, vous venez de nous le dire, vous avez été professeur de lettres. Dans un premier temps, qu'est-ce qui vous a poussé vers ce métier ?
Ben, l'amour des livres. Les livres, c'était ma consolation permanente. Quand j'étais enfant, très seule, ma mère ouvrière agricole dans des fermes, nous changions de ferme souvent, et j'étais donc livrée à moi-même. Mais je ne me sentais pas malheureuse, c'est pas ça que je veux dire. C'est tout simplement que cette solitude d'enfant, cette difficulté avec une mère qui ne m'avait pas élevée, le monde rude de la ferme, que je supportais, je pense, bien, mais je le supportais bien parce que j'ai eu accès aux livres, à la lecture et particulièrement Charles Dickens. J'ai l'impression qu'il m'a sauvé la vie. Voilà, Charles Dickens.
Et quelle est votre formation de base ?
Finalement, une licence de lettres, lettres modernes à la Sorbonne. Et cette licence de lettres m'a confortée dans l'idée que je pouvais enseigner. Voilà.
Et justement, aviez-vous déjà un attrait pour la littérature depuis très jeune ?
Ah oui, oui, c'est ce qui m'a amené les dictées. Vous savez, à l'école primaire, nous avions des dictées, souvent des extraits de romans. Et à chaque fois, j'avais un pincement parce que je me disais, moi, j'ai 10 lignes d'un texte magnifique. J'ai adoré Chateaubriand, j'ai adoré, enfin, je ne sais même plus maintenant, tellement, il y avait de propositions qui ramenaient à la littérature, à la vraie littérature. C'était puissant, ces dictées. Alors, évidemment, si on est mauvais en orthographe, c'est une souffrance. Mais je ne sais pas comment et pourquoi. J'ai eu une orthographe presque naturellement juste, peut-être parce que je lisais déjà beaucoup ou je relisais Olivier Twist. J'ai dû le lire 25 fois, mais je ne sais même pas. Je l'emmenais quand le jeudi, je gardais les vaches, parce qu'il fallait donner sa participation à la ferme. Hein. Même enfant, on n'était pas là, comme vous allez dire, à des assistés. Quoi. Il fallait faire quelque chose. Et je cachais mon livre dans un sac, le sac qui me servait à m'asseoir, et je le relisais infiniment. Donc voilà, je ne sais pas si c'est ça qui m'a fait que la grammaire ne m'a pas été tellement nécessaire.
Et d'où est née la passion de la littérature ?
Voilà, mais c'est ça, de là, de ces mots qui s'enchaînaient si bien, alors que moi, finalement, je n'en avais pas au départ beaucoup à ma disposition, et puis que ma mère ne me parlait pas beaucoup. D'ailleurs, elle travaillait toute la journée, jusqu'à la nuit, quoi. Et on ne parlait pas beaucoup, en fait. Enfin, nous écoutions beaucoup. J'écoutais les veillées, j'écoutais des choses comme ça, voilà.
Alors, si j'ai bien compris, hein, de votre famille, la littérature, ça n'était pas non plus quelque chose de très présent.
Non, il n'y avait pas de livres. Les prix que j'avais à l'école. Et il y avait par exemple la collection verte, je crois. Oui, c'était des livres peu coûteux. C'était pas les livres de poche. Et notre maîtresse d'école à Chenu, dans le sud de la Sarthe, avait choisi de nous proposer, au lieu de prix avec des gros cartonnages rouges, elle nous proposait des éditions toutes simples, voilà, sur les aventures du Grand Nord, enfin, James Oliver Curwood, Man Red, des aventures, mais qui étaient loin de notre monde. Et je pense que, voilà, c'était une forme pédagogique de nous attacher à la lecture.
Alors, vous nous l'avez dit, hein, votre auteur préféré, c'est Dickens. Pourquoi, justement, cet auteur, il vous a inspiré ?
Il m'a personnellement beaucoup inspiré parce que je pouvais pleurer sur le sort d'Olivier Twist, Oliver, Olivier, comme on veut. Quand j'ouvrais le livre, je commençais presque à pleurer parce que ma propre histoire, je pense maintenant, à 83 ans, je pense que j'avais besoin de ressentir que d'autres enfants avaient vécu des choses trop lourdes pour eux. Je les ai supportés, manifestement, mais c'était lourd, c'était très lourd. Et de rencontrer vraiment, comme une rencontre, un petit garçon dans la condition de l'Angleterre, miséreuse, des ville, alors que moi j'étais à la campagne, c'était non pas un contrepoint, mais une autre histoire que la mienne, et je ne vais pas oser dire qu'elle me rassurait, mais elle me faisait faire fraternité ou sororité, et j'étais bien avec lui, j'étais vraiment bien, même si je pleurais, voilà, les larmes, c'est pas que du chagrin, c'est du réconfort, moi je les prenais comme ça en tout cas.
Alors vous êtes une auteure sartoise, notamment de recueils de poésie et de romans, déjà comment vous vous êtes mis dans un premier temps à la poésie ?
Tout simplement, par efficacité, c'est très technique en fait, c'est que j'aimais écrire et J'ai été élue, notamment régionale, et je devais prendre le train. Donc j'ai été élue la première fois en 86, et j'étais enseignante en lycée pro, toujours au lycée sud. J'avais des livres toujours dans mon sac, au cas de panne de train, etc. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais le matin, elle est tellement belle, cette route, enfin cette voie ferrée qui traverse des espaces du Mans à Nantes, que le matin, j'oubliais tout le monde à côté de moi, mais mes copines ou des amis élus, ou pas amis d'ailleurs, mais des gens que je fréquentais, et je prenais un bout de papier, mon cahier, et j'écrivais. Et dans ce temps-là, donc dans ce court temps, même si c'est 2h15, j'avais bien une demi-heure de vraie écriture. Et c'est ça qui m'a amené à écrire la poésie, forme courte. Et puis j'avais ce scrupule, j'ai été aussi adjointe au Mans, j'avais ce scrupule qu'écrire des romans, les gens pourraient penser, mais qu'est-ce qu'elle fiche celle-là, elle est élue et elle doit s'occuper de nous, quoi, au lieu d'écrire des histoires. Et donc j'ai beaucoup attendu avant de me lancer dans l'écriture de mes 4 romans. Là j'ai le temps maintenant, bien sûr.
Alors avant de revenir sur le dernier roman que vous avez écrit, on revient un petit peu au niveau de justement la poésie. Vous avez écrit combien de recueils ?
4 recueils. Tous chez Donné à voir. Et tous sur quelque chose de l'ordre de l'apaisement par la nature, par la fraternité, oui, par le sentiment presque de compassion. Moi, je suis vite dans cette tendance à compatir, enfin, essayer de comprendre en tout cas ce qui se passe chez les gens qui sont rejetés, oubliés, oubliés du monde, oubliés même dans leur propre famille. Et j'étais élue, on me le reprochait d'ailleurs de m'occuper parfois trop des cas personnels, des cas sociaux, des cas, voilà. Et bien moi, c'était ma tendance naturelle. Et ça nourrit ensuite l'écriture. Vous rencontrez des gens, mais passionnants. C'est d'aller au-delà des apparences.
Pouvez-vous nous donner le titre, justement, de ces 4 recueils ?
Alors, Incrustation, en 1993. Au Calende Bleu, 94. Le Feu Indigo, 96. Le Blues du Pain, 2002. Tous ont du bleu. Tous ont du blues.
Et vous écrivez également, bien sûr, des romans. Déjà, oui. En quoi écrire un roman est différent d'écrire de la poésie ?
Eh bien, parce qu'il faut aller au bout. Dans une poésie, vous pouvez rester en suspens. Mais écrire un roman, on attend de vous que vous ayez un commencement, une histoire nourrie, et puis un final. Quelque chose qui claque à la fin ou ne claque pas, mais quelque chose qui conclut. Ou provisoirement, mais qui conclut, qui ferme. Donc c'est un livre qu'on ouvre et qu'on doit refermer avec les canons du roman, même si on les aménage. Mais Coquelicot Varsovie, finalement, par exemple, le premier était compliqué parce que je faisais écho à 2 voix. La voix d'une femme, on va dire ma propre voix, de 75 ans à l'époque, 70, qui a perdu un enfant et qui dialogue avec l'enfant qu'elle a été, qui renoue avec une enfance, cette fameuse enfance de la campagne, cette enfance seule et en même temps tellement accrochée à la fin de la guerre, à la ferme. J'étais assise à côté du prisonnier allemand. C'était extraordinaire pour une enfant d'être dans l'histoire. Et le prisonnier allemand était mutique, il ne parlait pas, il ne voulait pas parler. C'était déjà un roman, quoi. Et je le regardais en me disant, mais il en a tué combien ? Ou bien je le regardais, j'ai pas de père. Voilà, lui, il a des enfants, c'est un père. Et je le regardais comme un père. Voilà quoi. Et on ne pense pas à ce moment-là qu'on nourrit du romanesque, qu'on nourrit des histoires. On ne peut pas penser ça quand on est enfant. J'avais 8-9 ans quand j'étais assise à côté de lui. Oh là là. Et quand il est parti, tout le monde pleurait. Marie, qui nous servait la soupe, elle pleurait en nous servant la soupe. Il était parti. Et voilà, il s'était fait estimer. C'est comme ça la vie. Et la guerre, c'est bien sûr atroce. Et nous, on le savait de près quand les bombes tombaient. Mais quand on a une enfance comme ça, je me dis, mais on n'a pas le droit de la terre. T'es à hier, hein, parce que la terre, par rapport à ses propres enfants, par rapport à ses petits-enfants, on en a 6. Et moi, je suis intarissable sur ce temps-là. Et ça recommence, en fait. Voilà, les choses ne s'arrêtent jamais totalement. Enfin bref, voilà. Donc mes romans, donc je les ai écrits et parfois je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas toujours faciles à lire. Sauf Les Voies rouillées, mais qui n'a pas bien marché, qui est l'histoire d'une itinérance d'une femme qui court, une femme qui court, qui va, qui ne veut s'attacher à rien, qui est dans le monde d'aujourd'hui, un peu dans cette errance qu'on rencontre et qu'on rencontre dans les romans. Et La modestie du monde, voilà, l'avant-dernier.
Et vous avez sorti un nouveau roman, hein, Poupée de maïs. Déjà, de quoi parle ce roman ?
Alors, il parle des origines, c'est-à-dire l'origine rurale. Et il parle de 4 femmes, mères de mère en fille. J'ai mis l'accent sur la vie des femmes, leur courage silencieux souvent, leurs engagements, également silencieux, puisqu'à la fin des fins, lorsqu'il s'agit de rendre hommage, elles sont un peu écartées, ou alors on dit qu'elles ont exagéré. Et j'ai situé cela dans le cadre d'une petite ville de fiction, mais qui peut ressembler à Château du Loir, à Saint-Calais, enfin des petites villes que moi je connais très bien, ou d'autres, La Châtre, enfin des petites villes de 3-4 000 habitants, sinon qui auront eu 5 000. Et aujourd'hui, on les appelle villages. En fait, le dimensionnement a changé. Et ces villes s'éteignent souvent. Et donc, j'ai situé mes quatre femmes des marais. Les femmes des marais, on les appelle dans la petite ville les des marais. Elles sont en conquête de liberté à tous les moments de notre histoire. L'une entrera dans la résistance. L'une, presque effacée, qui est l'ombrette. Son diminutif, c'est l'ombrette, ça dit tout. Elle, elle est 14-18, enfin 19-20, elle est de l'après-guerre. Et puis ensuite, on a Madeleine Mado, qui, elle, entre dans la résistance à 19-20. 20 ans, et elle a une fille avec un autre résistant qui est italien, arrivé d'Italie dans l'illégalité et qui va être emmené en camp de concentration. Et puis, ils ont une fille, Emilia, évidemment, il y a un respect de son papa, et c'est lui qui avait choisi le prénom. Elle s'appelle Emilia, elle-même est aux prises dans les années 70-80 avec des problèmes de notre temps. La difficulté de se déclarer homosexuel, par exemple, toutes ces choses, enfin ces choses-là, c'est mal dit, mais chaque période a ses difficultés, des difficultés qu'il faut lever. Et Emilia, ben voilà, va se battre avec ça. Et ensuite, Suzanne, et Suzanne, mais je ne dis pas parce que il y a une histoire de labyrinthe dans les maïs. Et là, je n'en dis rien de plus, va vivre quelque chose de pas d'insurmontable, je ne sais pas si on peut dire ça, mais quelque chose d'une grande violence. Et à la fin de la fin, on a un fils ou petit-fils qui s'appelle Clément, qui ouvre le roman et qui le ferme. Et Clément, lui, est prof de philosophie. Et j'essaie de rendre la philosophie accessible, c'est-à-dire de dire que la philo, c'est pas des malins plus que d'autres, que les philosophes sont des personnes vraiment part entière accessible. Et c'est une gageure, hein. Écrire, c'est ça, c'est des courses d'obstacles. Et voilà. Mais j'ai relu hier, parce que je savais que vous me poseriez des questions, et j'ai relu le premier et le dernier chapitre. Je me suis dit, est-ce que ça tient? Et puis j'en ai conclu que oui, ça se tenait en tout cas, ça se tenait. C'est-à-dire que c'est cinq chapitres avec un titre, chacun, peuvent faire l'objet d'un roman. D'où l'idée de serrer, serrer, serrer.
Et concrètement, quels sont les thèmes abordés dans ce livre?
Ben toujours la conquête de la liberté, la domination de ce qu'on nous impose, donc ça va avec, c'est dire autrement les choses. Et puis notre monde est comme un labyrinthe, il y a des labyrinthes partout, et il faut forcer les passages, il faut s'engager. Voilà, c'est un livre contre l'inertie, contre le laisser-aller. D'ailleurs, cette famille, puisque c'est l'histoire d'une famille, les démarrais, dans toutes les familles, il y a des principes de vie quand même. Faire au jour le jour, chez certains d'autres, c'est tenir le coup, et là c'est ça. C'est de toute façon se tenir et se défendre, avancer, pas que pour soi, quoi. Il y a beaucoup de, il me semble, hein, beaucoup d'idées de dons et appartenir à une communauté. Ne pas faire les malins, par exemple, dans sa petite ville, même si parfois elles sont taxées, les démarrais, d'en faire un peu trop. Et elles sont acceptées. Voilà. Puis et le thème, c'est aussi la petite ville qui englobe, qui fait société. Les petites villes, voilà, on se connaît tous, tous. Rien n'échappe à l'observation derrière les carreaux. Rien derrière les rideaux. Rien. Et j'aime beaucoup cette recherche de ce qui se pense. Et puis ce monde associatif, ce monde de soutien. En fait, il y a voilà, la recherche de la solidarité quand les choses pourraient tourner à l'égoïsme et à la violence. Et il y a de la violence, bien sûr.
Et pourquoi l'avoir justement appelée poupée de maïs?
Alors, poupée, je l'ai mis au pluriel. Je crois qu'il existe un autre roman où ça y est. Enfin bon, poupée de maïs. Enfant, je me réfugiais dans les maïs. Parce qu'il y avait des poupées, et comment dire ça, c'est pas des poupées, hein, mais c'était le fruit, le maïs qui était enveloppé de ses robes. Il y avait une sorte pour moi de robe, et puis il y avait une chevelure magique. C'était magique. Je pouvais caresser, j'étais seule donc, seule enfant. Et quand je courais dans les maïs avec la peur de m'y perdre, je cueillais forcément, j'avais pas le droit parce que c'était la récolte. Puis de toute façon, j'en cueillais quoi, une ou deux. Et je pouvais là jouer à la poupée. Et puis le maïs à la campagne, moi j'ai connu arrivant dans nos campagnes, mais c'était pas le blé, c'était autre chose. Alors les blés, je ne pouvais pas faire la même chose puisque c'était plus serré. Les maïs, c'est vraiment incroyable. C'est des refuges, bon. Et quand ce qui se passe pour Suzanne, la dernière des démarrais, la dernière femme des démarrais, quand elle a cette triste... infiniment, mais brutale, quoi, cette odieuse brutalité. Dans ses maïs, elle cueille, elle aussi, elle va recueillir, elle va prendre dans ses mains le maïs en forme de poupée et elle va, c'est-à-dire, se ressaisir avec cela, parce que ce qui vient de lui arriver est absolument odieux, insurmontable quasiment, et qu'elle va prendre cette consolation, ce soutien. Donc c'est quelque chose, c'est un rappel très campagnard, hein. Mais moi, je suis restée toujours proche de la vie de la campagne, y compris à travers sa végétation, à travers ses oiseaux, à travers les signes que la campagne nous donne, les arbres. Quand j'ai commencé, j'ai fait de la peinture aussi. Quand j'ai commencé à peindre, j'ai peint des arbres, j'ai peint voilà, des visages et des arbres. Parce que ça me paraît répondre. En fait, on se cherche des rêves, on trouve facilement du rêve dans ce qui nous entoure. Alors la ville, c'est sûrement plus difficile, et c'est peut-être pas tout à fait les mêmes références.
Et comment s'est passée l'écriture, justement, de Poupée de maïs ?
Très, très vite. Mais vraiment, en 2 mois, c'était bouclé. J'y avais pensé, par exemple, une partie de mes vacances. Je commence par ne pas écrire, ou des bouts, des bribes. Et puis, je construis la nuit, si je ne dors pas, ou quand je marche, je construis l'histoire peu à peu. Et je me suis plantée dans cette histoire. Je me suis rendu compte que je me plantais complètement, je me trompais, en commençant par 1919 ou 1914. Et pourquoi ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, parler de la Première Guerre mondiale, puis de la Deuxième, c'est parler de trop loin. Et alors j'ai commencé par Clément, l'enfant des femmes des Marais, cet enfant élevé par les femmes des Marais. J'ai commencé par aujourd'hui, par la pandémie. Donc le premier chapitre, c'est 2020. Le dernier, c'est 2022. J'ai construit cela comme ça. Et entre les deux, c'est effectivement les références, la vie dans cette petite ville, la vie paysanne, la vie laborieuse, et puis l'émancipation par l'école, pour beaucoup, par la formation, oui, par l'école. Et on finit par quitter la ville, on finit par quitter ces lieux, parce que ils ne répondent plus à des attentes d'aujourd'hui, quoi. Donc voilà, j'ai reconstruit tout le livre, et là, ça a plus séduit le monde des éditions que de commencer par 1914-1918, quoi. Et même si ça habite encore nos références, enfin, on n'oublie pas, quoi. Notamment la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, on n'oublie pas. On ne peut pas oublier. Et puis on a les monuments aux morts, de toute façon. Donc voilà. Et ainsi, c'est pas si mélancolique, hein. C'est dynamique, hein. Je pense avoir voulu écrire dans une dynamique. Je parle aussi aujourd'hui des EHPAD, par exemple. Parce que je ne veux oublier personne. Et il n'y a que 200 pages. Et il fallait contenir tout ça dans 200 pages. Voilà.
Et où peut-on acquérir justement ce roman ?
Eh bien, chez les libraires, au Mans, en tout cas, ils y sont. Par Internet, j'ai vu qu'ils y étaient. La vente, donc, finalement, je ne suis pas très affûtée là-dessus, mais il s'achète par Internet, qu'il s'achète chez les libraires, qui est comment ? Puisqu'il est sorti le 2 septembre, accessible partout, quoi. Voilà. Ah, j'ai oublié l'essentiel. Dans les bibliothèques, médiathèques, certaines l'ont déjà acheté.
Et sinon, est-ce que vous avez des contacts pour ceux qui souhaitent plus de renseignements sur vous et votre travail ?
Alors, sur moi et mon travail, alors le contact de l'éditeur, et ensuite je peux donner le mien, ça ne me dérange pas du tout, parce que je trouve que la relation personnelle, c'est très fort. Alors, Libra, l'éditeur, je dis LIBRADIFUSIO, Libra Diffusio, @yahoo.fr, donc libradiffusio@yahoo.fr, et mon mail, hugette.erin@wanadoo.fr.
Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ?
Je suis très heureuse d'être en contact avec vous et avec celles et ceux qui vous écoutent. Je serais contente de pouvoir expliquer ce projet et cette finalité, quoi. Voilà. Arriver au bout d'un livre et puis arriver au bout d'un livre à 83 ans, c'est-à-dire à l'âge où on commence parfois bien avant à perdre la mémoire. Et je pense justement que lire et écrire, quoi que l'on lise, quoi que l'on écrive, c'est très bon pour la mémoire, pour nos cerveaux, pour la vitalité et la connaissance.
Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe ? Qui peut dire où sont les fleurs du temps passé ? Quand va la saison jolie, les jeunes filles les ont cueillies. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? qui peut dire où vont les filles du temps qui passe? Qui peut dire où sont les filles du temps passé? Quand va le temps des chansons se sont données aux garçons? Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Mais où vont tous les garçons du temps qui passe? Mais où sont tous les garçons du temps passé? Lorsque le tambour roula, se sont faits petits soldats. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Mais où vont tous les soldats du temps qui passe? Mais où sont tous les soldats du temps passé? Sont tombés dans les combats et couchés dessous leur croix. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Il est fait de tant de croix, le temps qui passe. Il est fait de tant de croix, le temps passé. Pauvre tombe de l'oubli, les fleurs les ont envahies. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe? Qui peut dire où sont les fleurs du temps passé? Sur les tombes du mois de mai, les filles en font des bouquets. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous jamais?
Alors, Madame Hérin-Travers, je vous remercie et j'espère qu'à travers cet échange, on aura donné envie à nos auditeurs de lire votre nouveau roman Poupée de maïs. Et voilà, je vous souhaite encore beaucoup de succès pour vos nombreux ouvrages. Je vous dis au revoir.
Merci, au revoir à toutes.
Votre magazine Au bout de la plume est terminé pour aujourd'hui. Passez une excellente journée sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles, 106.3 FM.